Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Etchari.
Nous retrouvons la journaliste Nelly Frey qui a écrit 2 des 6 portraits du dossier Parcours de Résiliente, un dossier à retrouver dans le numéro 46 de notre média partenaire Famosa. Dans le premier épisode, nous en avons appris un peu plus sur le travail de la rédaction pour réaliser ces reportages et comment ont été choisies ces 6 femmes, ces 6 résilientes qui ont vécu des moments extrêmement difficiles et qui se sont battues pour s'en sortir. Nelly a commencé à nous raconter sa rencontre avec Samantha Palancher, une femme qui a subi des violences intrafamiliales et qui se reconstruit aujourd'hui. Bonjour Nelly Frey.
Oui, bonjour.
Pour en revenir à votre portrait de Samantha, vous écrivez « Quand on est détruite par ce qu'on a vécu, comment survivre ?» C'est une question dans laquelle beaucoup de personnes peuvent se retrouver, à laquelle beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Quelle est la réponse de Samantha ?
Samantha, elle a repris pied finalement, elle a trouvé la force en elle. Alors ça, c'est une parole qui revient chez toutes les personnes que nous avons interviewées. Elle cherche d'abord à l'extérieur des solutions, elle les trouve parfois, mais c'est surtout en elle d'explorer une force qu'elles ignoraient finalement, qu'elles mettent en action pour essayer de se relever, d'émerger. Et Samantha, d'abord, elle a été un peu dans l'autodestruction. Elle s'est fait beaucoup beaucoup souffrir. Les gens l'avaient fait souffrir, elle se faisait souffrir elle aussi. Finalement, c'est une question qui s'est présentée à elle en disant « mais pourquoi c'est eux qui devraient souffrir, c'est pas moi ?» Et là, elle a commencé à s'en sortir, à appréhender aussi les autres un peu différemment, à rentrer dans un jeu social. Et là, lorsqu'on l'a rencontrée, elle avait un challenge énorme pour elle qui consistait à passer son code de la route. Passer son code de la route, c'était tout un symbole puisque l'association lui avait permis de travailler dans une autre association. Elle avait un petit emploi qui déjà, c'était dans le commerce. Déjà, elle rencontrait l'autre, pas sur un mode affectif, mais comme un client ou comme un collègue. Et c'était déjà toute une histoire. D'abord, elle ne pouvait pas prendre le transport en commun, elle ne pouvait pas être en présence d'autrui. Et finalement, elle était en route vers l'indépendance. Et ce passage par le code de la route et puis le permis de conduire, c'était quelque chose qui lui paraissait insurmontable. Elle m'en a beaucoup parlé. Et finalement, elle est dans cette reconquête d'elle-même. Je l'écris, c'est ainsi que je l'ai rencontrée, que j'ai compris ce qu'elle m'a raconté. Et ce que je voulais dire aussi dans cet échange que nous avons eu, ce sont pas des échanges faciles, c'est des échanges assez difficiles avec une parole qui hésite, qui une parole qui fait attention à tous les termes utilisés, c'est-à-dire chose que je ne fais pas d'habitude. Au terme de notre échange, je lui ai relu les notes que j'avais prises, c'est-à-dire pour vraiment voir si elle validait tout ce qu'elle écrivait, si les mots étaient les bons. Alors il y a des mots qu'elle a corrigés sous ma plume. Elle, par exemple, pour la mort de son père, elle ne voulait absolument pas que j'utilise le mot de mort. Il fallait que j'utilise décès, pas mort. Pour sa mère adoptive, il fallait que je dise maman de cœur et pas mère adoptive. Les mots avaient une importance capitale pour elle. Et il fallait faire très attention, quoi, dans l'article, qu'elle se reconnaisse et qu'on ne la trahisse pas une fois encore.
Et aujourd'hui, est-ce qu'elle considère qu'elle s'en est sortie? Quel est son regard sur toutes ces épreuves et sur tout ça aujourd'hui?
Vraiment, à la fin de notre entretien, elle a eu des mots très positifs en disant qu'elle se sentait forte. Par contre, elle s'inquiétait beaucoup de l'attitude qu'elle avait avec son fils, qui est une attitude de surprotection, ayant bien conscience que ce n'était pas la solution non plus, qu'elle devait pas régler à travers son enfant des choses qu'elle avait à régler elle-même. Voilà, donc elle faisait ce retour sur elle-même, elle était mature dans sa tête, et moi j'ai eu plutôt le sentiment que c'était bon, qu'elle tenait le bon bout, qu'elle allait s'en sortir, que ce n'était pas encore tout à fait joué. Je sentais la fragilité chez cette femme, c'est certain, mais qu'elle allait s'en sortir. Et l'assistante sociale qu'elle a rencontrée après coup m'a rassurée. J'ai pris des nouvelles après. Hein. C'est pas forcément quelque chose que je fais non plus. Mais c'était tellement particulier que j'ai tenu quand même à savoir si l'entretien que nous avions eu ne les avait pas non plus totalement démontés. Et j'ai eu plutôt de bons retours avec une certaine satisfaction à avoir figuré dans un dossier collectif où elle faisait partie d'un groupe de femmes finalement qui témoignaient. Ça, ça avait son importance aussi. Maybe I'm a monkey in a tree, running with the hope and possibility, throwing pennies down the wishing well, hoping and wishing. Male monkeys just to look at me, look how quickly I can climb a purple tree. I'm a gymnast, chemist, centrist, mathematician. You should look at me, look at me. I'm great. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'il y a une chose qui vous a particulièrement marqué dans son témoignage ?
Oui, clairement, c'est la parole qui se libère qui m'a énormément marqué. C'est quelque chose, je suis journaliste depuis longtemps, donc je vois des gens plus ou moins heureux de témoigner de leurs histoires face à un journaliste, à être médiatisé. Mais dans ce cas-là, il y avait vraiment la découverte qu'elle pouvait prendre de la distance par rapport à son vécu et en parler pour une journaliste hein, qui n'était là ni comme soignant ni envoyeur. Hein, il n'y avait pas de la curiosité malsaine de ma part. Donc c'était vraiment une parole qui se libère peu à peu. Ça n'allait pas de soi au départ. Hein, c'était un peu embrouillé au départ. Et pour les deux témoignages d'ailleurs, sur la fin, il y avait beaucoup plus de confiance et on sentait une certaine joie. Il y avait un caractère un peu jubilatoire à finalement prendre cette parole et à dire et ses quatre vérités, parce que après tout voilà, quand elle a parlé de son viol, elle a eu des propos très rudes à l'égard de cette ordure, c'est son mot qui lui a fait ça, mais il y avait quelque chose de libératoire, très très satisfaisant, et j'espère que ça les aura aidés finalement ce reportage.
Le deuxième témoignage que vous avez recueilli, c'est celui de Sarah, intitulé dans le dossier « Sortir de la rue » avec cette citation « La France m'a tout donné ». Je vous laisse nous la présenter et nous présenter son parcours si vous voulez bien.
Donc Sarah vient d'Afrique, elle a perdu ses parents très jeunes et elle a été désignée par sa famille comme la personne qui subviendrait aux besoins du reste de la famille, c'est-à-dire de ses frères et sœurs petits. Donc elle est rentrée dans un réseau de prostitution comme ça pour aller gagner de l'argent en Occident, enfin comme sans doute ça arrive malheureusement trop souvent dans ce cas de situation de gens sans ressources. Et son témoignage, donc elle a bien voulu me confier là aussi son vrai nom, et ça fait pas si longtemps que ça finalement qu'elle a vécu ça. Son témoignage devient très clair quand elle s'en sort, quand elle rentre dans le foyer, c'est-à-dire d'abord elle est en Italie, elle est prostituée en Italie avec d'autres filles, et puis elle tombe enceinte, et là elle essaye, peut-être pour son enfant, enfin ça c'est pas très clair, mais elle essaye de retrouver le père de l'enfant. Et le père de l'enfant est à Bordeaux. Elle va à Bordeaux, elle cherche à le retrouver. Il rejette elle et l'enfant parce qu'il est marié. Et là, elle retombe dans la rue. Elle se retrouve un peu au hasard en Dordogne, où elle ne mange plus. Elle est vraiment très maigre, quoique enceinte. Et quelqu'un dans la rencontre dans la rue et l'emmène justement à l'hébergement d'urgence de l'ASD. Et là, elle me dit, finalement, quand j'ai rencontré l'assistante qui m'a fait un sourire, j'ai compris que finalement, elle allait m'aider. Quelqu'un allait m'aider, allait me tendre la main. Et là, son récit, bizarrement, à partir de ce moment-là, devient très précis. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est à, mettons, 6 mois de l'accouchement. Elle me donne des dates très claires, des noms. Tout devient très clair, alors que le reste était plutôt embrumé dans ses souvenirs. Et elle me raconte l'histoire, finalement, de sa reconquête, elle aussi, d'une forme de liberté, de dignité aussi, hein, qui avait été sacrément malmenée. Donc elle accouche au foyer d'hébergement d'urgence de l'ASD, et là, tout commence à se remettre en ordre pour elle, et à nouveau, elle a une histoire, elle maîtrise son histoire, et elle me la raconte, et donc maintenant, elle est en appartement, elle a un nouveau compagnon, elle a deux enfants, Et elle a surtout un travail qu'elle a arraché de haute lutte. Alors, c'est un travail qui est un travail dur, de nuit, dans le domaine du foie gras, donc dans la conserverie. C'est compliqué, mais elle a négocié et obtenu un CDI. Et ça, c'est pour elle, c'est vraiment extrêmement important. Et elle le raconte avec pas mal de détails, bien qu'elle Sarah ne parle pas très très bien le français, mais elle sait très bien faire comprendre toute l'importance qu'a eu cet accompagnement social de l'ASD, et aussi ce sentiment, comme je vous le disais, qu'elle avait une force en elle, parce qu'elle me dit-elle, elle aurait très bien pu dormir et se laisser couler, mais finalement cette force l'a aidée à remonter la pente, et aujourd'hui elle a le sentiment que plus rien peut lui arriver et que elle va aller de mieux en mieux, et vraiment, elle a le sentiment, elle, d'avoir tourné la page, quoi. D'où cette volonté, d'ailleurs, de témoigner. Il n'y avait aucun problème à témoigner, à se faire photographier. Elle était plutôt contente de ce témoignage qu'elle a fait pour Famosa.
Parmi toutes les épreuves qu'elle a traversées, donc c'est l'ASD qui l'a aidée. L'ASD revient dans plusieurs des témoignages de ce dossier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'activité de cette association ?
Oui, d'autant qu'on l'avait détaillé dans le Famosa du mois de mai. C'est une association qui est diverse hein, dans ses missions, qui s'occupe, bon, je l'ai dit, d'hébergement d'urgence, qui a des maisons relais pour effectivement héberger des gens qui n'ont pas la possibilité de se payer un loyer, qui fait aussi de l'accompagnement psychologique, ça c'est très important, et l'accompagnement juridique aussi. Voilà, elle fait de la réinsertion sociale et aussi de la veille sociale. Moi, je les ai rencontrés, je vous l'ai dit, en suivant une assistante sociale et une bénévole lors d'une maraude. C'était un soir d'hiver et c'était assez terrible, hein, parce que justement le sujet de mon article, c'était une espèce de croissance exponentielle du nombre de gens dans la rue. Alors là, je parle de la Dordogne, hein, je parle pas de grandes villes, mais l'ASD et d'autres structures de ce genre ont vu arriver énormément de gens qui n'avaient plus d'hébergement. Était-ce lié à la crise de la Covid ou à toute autre chose? Bon, il y a sûrement de multiples facteurs, mais en tout cas, pas assez de places d'hébergement, y compris pendant l'hiver. Pendant la maraude, on avait rencontré plusieurs personnes, évidemment, et quelques couples. L'ASD m'avait fait comprendre aussi qu'il y avait de plus en plus de femmes. Alors, pas de façon... il y a toujours plus d'hommes dans la rue que de femmes, mais enfin, ça... leur nombre augmentait au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de bénéficiaires de ces hébergements d'urgence. Donc l'ASD a une action très importante sur la Dordogne, très très peu médiatisée. D'ailleurs, c'est pas leur souhait particulier. Moi, j'avais tenu à en parler parce que ils sont importants aussi. Et voilà, et c'est eux qui m'ont permis de rencontrer ces beaux parcours de femmes.
Et donc dans le parcours de Sarah, c'est eux qui ont été, on va dire, l'élément déclencheur pour qu'elle puisse sortir de la rue.
Oui, clairement. Je ne sais pas si elle serait sortie de la rue sans eux, mais en tout cas, justement, la diversité de ces accompagnements fait qu'elle a pu trouver vraiment les soutiens dont elle avait besoin, y compris l'accompagnement de son bébé, hein, puisqu'elle a eu son bébé tandis qu'elle était en hébergement d'urgence. Elle n'est plus du tout dans ce type d'hébergement. Elle a son propre appartement, Sarah. Mais elle garde des liens, elle a pris des nouvelles, puisque je l'ai rencontrée au centre de l'ASD, et elle a pris des nouvelles d'un peu tout le monde. Et c'est un peu le beau parcours aussi sur lequel on s'appuie pour montrer que c'est possible, malgré... vraiment des difficultés, bon, dans son cas énorme, eh bien c'est possible, on s'en sort, voilà, on s'en sort grâce à un accompagnement précis. Il faut des soutiens, évidemment, au bon moment. Il faut aussi que la personne veuille bien se laisser aider, hein, parce que c'est peut-être pas toujours le cas. C'est un dossier qui dit tout ça. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. You know, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces.
Et justement, parmi toutes ces épreuves, toutes ces difficultés qu'elle a traversées, qu'est-ce qui lui a permis de tenir et de ne pas abandonner plus tôt ? Qu'est-ce qui lui a permis de continuer à se battre ?
Je crois que dans les deux cas d'ailleurs, pour Sarah comme pour Samantha, c'est l'enfant. Les enfants, dans le cas de Sarah, c'est vraiment quand il y a un enfant, on se bat plus pour soi, on se bat vraiment pour l'enfant. Et là, on redouble d'énergie. Enfin, c'est un peu ce qu'elles m'ont dit. Et avec beaucoup d'importance accordée à la façon dont elles élèvent cet enfant, c'est-à-dire comment leur difficulté n'impacte pas cet enfant dans son développement ultérieur. Ça, c'est quelque chose d'important aussi dont elles m'ont parlé. Enfin, on parle pas de tout hein, dans un reportage. Il y a aussi des à côté qu'on évoque et l'histoire de l'enfant, la scolarité de l'enfant, tout ça évidemment fait que elles s'en sortent pour deux ou pour trois dans le cas de Sarah, c'est sûr.
Et comme pour Samantha, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans le témoignage de Sarah ?
Sarah était... je craignais beaucoup. J'avais eu un désistement pour une femme qui était dans la prostitution, qui m'avait demandé de ne plus la contacter. On avait eu un échange par texto. J'avais très peur que Sarah ne vienne pas au rendez-vous parce que j'ai bien conscience que c'est difficile. Il y a un réseau derrière en plus. Et Sarah est très forte. Elle est venue à l'heure dite, ravie de témoigner. Avec la difficulté de la langue. Par exemple, elle n'a jamais utilisé le mot prostitution. C'est moi qui ai dû lui demander si effectivement il s'agissait bien de ça. C'est un mot qui est banni de son langage. Elle en parle de façon indirecte. Mais évidemment, elle en parle. Hein. C'est pas pour cacher cette situation, mais c'est qu'il y a des mots qu'elle ne met pas, qu'elle n'utilise pas sur son parcours. Et puis ensuite, elle m'a fait part de ses projets aussi, j'en parle un petit peu dans l'article. C'est-à-dire, elle n'a pas tout à fait rejeté son Afrique natale et elle aimerait ouvrir un restaurant, justement parce qu'elle a gardé les saveurs de l'Afrique en tête. Et elle aimerait ouvrir un restaurant africain et c'est un projet qu'elle compte bien mener. Donc il y a encore, il y a le parcours qui l'a conduit là, il y a le fait de s'en être sorti et puis après il y a les projets. Il y a vraiment plusieurs temporalités d'ailleurs dans ces témoignages.
Merci Nelly Frey d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir partagé ces portraits.
Je vous en prie, merci à vous.
Vos deux articles et le dossier Résilience sont à retrouver dans le numéro 46 de notre média partenaire Famosa.
Merci Clara et Chari, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignier, Marion Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.